chez le roi. Marie-France Guimard-Roche est très heureuse de vous présenter son émission consacrée à Versailles. Voici une émission un petit peu particulière, chers auditeurs, de Bienvenue chez le Roi. J'ai le très grand plaisir de recevoir dans nos studios du Rocas, 15 rue Mérigot, à Dreux, Alain Bodvinic, le docteur Alain Bodvinic, qui vient nous parler de Louis XVI. Bonjour Alain.
Bonjour.
Tu nous as fait des émissions remarquables. Louis XIV, le Roi Soleil. Louis XV, le Bien-Aimé, le siècle des Lumières. Louis XVI, le roi martyr. 1683, Louis XIV s'installe à Versailles. La France rayonne partout dans le monde. 1789, le funeste 6 octobre. Louis XVI quitte Versailles pour toujours. Que s'est-il passé en 100 ans pour que tout ce qui faisait la grandeur de la France se retrouve dans le caniveau ramassé par Napoléon Ier? À qui la faute? Mon beau-père, le docteur Roche, qui fut médecin directeur du sanatorium de Dreux pendant la Seconde Guerre mondiale, était passionné d'histoire, et particulièrement par le XVIIIe siècle. Sa bibliothèque regorgeait d'ouvrages dont il avait annoté les chapitres, par exemple les œuvres de Georges Bordeneuve, « Les rois qui ont fait la France », édité en 1983 sur les presses brétoliennes dans l'Eure. Ça avait pourtant bien commencé. Goldoni avait écrit dans ses mémoires « Mais essuyez vos larmes aux Français. La Providence lui a donné un successeur dont les vertus feront votre bonheur. Vous avez qualifié plusieurs de vos rois par des titres et des surnoms qui sont passés à la postérité. Quelle sera l'épithète honorable que vous choisirez pour Louis XVI? Je le nomme, en attendant, dans mon cœur, Louis le Sage. » Marie-Antoinette ne tarissait pas d'éloges sur son époux. de Schönbrunn, le 17 juin 1774, l'impératrice écrivait à sa fille « Je ne saurais vous exprimer ma consolation et joie particulière sur tout ce qu'on entend chez vous. Tout l'univers est en extase. Il y a de quoi ? Un roi de 20 ans et une reine de 19. Toutes leurs actions sont comblées d'humanité, générosité, prudence et grand jugement. La religion, les mœurs, si nécessaires pour attirer la bénédiction de Dieu et pour contenir les peuples, ne sont pas oubliées. Enfin, je suis dans la joie de mon cœur et prie Dieu qu'il vous conserve ainsi pour le bien de vos peuples, pour l'univers, pour votre famille et pour votre vieille maman que vous faites revivre. Je ne vous dis rien sur le choix des ministres que tout le monde trouve convenable. » Après les épanchements et les attendrissements, la souveraine réapparaissait toujours. En France, pourtant, les têtes pensantes ne se faisaient pas trop d'illusions. L'extase populaire ne durerait certes pas longtemps. L'impératrice d'Autriche répondait ainsi à sa fille, à une lettre qu'elle avait reçue d'elle quelque temps auparavant. « Madame, ma très chère mère, merci, vous aura mandé les circonstances de notre malheur. » Elle parlait évidemment de la mort du roi Louis XV. « Heureusement, cette cruelle maladie a laissé au roi la tête présente jusqu'au dernier moment et sa fin a été fort édifiante. Le nouveau roi paraît avoir à cœur le sort de son peuple. 2 jours avant la mort de son grand-père, il a fait distribuer 200 000 francs aux pauvres, ce qui a fait le plus grand effet. Depuis la mort, il ne cesse de travailler et de répondre de sa main aux ministres qu'il ne peut pas encore voir, et à beaucoup d'autres lettres. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il a le goût de l'économie et le plus grand désir de rendre ses peuples heureux. En tout, il a autant d'envie que de besoin de s'instruire. J'espère que Dieu bénira sa bonne volonté. » Et elle ajoutait « Quoique Dieu m'ait fait naître dans le rang que j'occupe aujourd'hui, je ne puis m'empêcher d'admirer l'arrangement de la Providence qui m'a choisi, moi, la dernière de vos enfants, pour le plus beau royaume de l'Europe. » Il y eut évidemment les plaisirs de la reine Marie-Antoinette. Bordeneuve explique « Comme à chaque automne, la cour s'était transportée à Fontainebleau. La reine se chargea de lui procurer des distractions. Avec la permission de Louis XVI, elle s'instituait ordonnatrice des fêtes, prenant en somme la suite de la Pompadour en ce domaine, mais hélas, avec moins de bonheur et de discrétion. » Sa jeunesse n'explique pas entièrement cette frénésie de plaisir. S'y ajoutait sans aucun doute la déception de n'avoir pas un homme véritable pour époux et surtout l'humiliation de n'être point mère. Mais peut-être aussi l'obscure prémonition du destin tragique qui la guettait. La prémonition, nous y voilà. Cependant, continue Bordeneuve, les Français avaient encore la monarchie au cœur, leur respect et même leur amour pour la personne du roi restait intact. C'est ici que le rôle de Marie-Antoinette apparaît autrement funeste que son influence politique. Elle contribuait à discréditer la royauté en adoptant un comportement opposé à l'idée que les Français se faisaient d'une reine. Jacques de Ricomont faisait dans le Figaro du 27 juin 1982, encore un article qui a été mis dans le livre par mon beau-père, une critique dithyrambique de cette série historique intitulée « Louis XVI ou les occasions manquées ». Le propos de Georges Bordeneuve en composant cette série des rois qui ont fait la France, de Henri IV à Louis XVI, était de mettre l'histoire à la portée du grand public. Il s'y est pris très habilement et a rempli son but. La lecture de ses livres est toujours agréable. Je continue l'article. Ainsi, sur l'éducation de Louis XVI qui fut très soignée bien que ses parents lui préférassent ses frères, et sur l'intelligence du roi qui fut un brillant élève, supérieurement doué en mathématiques et en physique. De nos jours, écrit l'auteur, il aurait peut-être été polytechnicien. Sa connaissance des choses de la mer devait stupéfier les marins eux-mêmes. En politique, il avait un instinct très sûr et profondément pacifiste. Il réussit à éluder les demandes de Joseph II qui eussent conduit à la guerre. Sa première erreur fut d'avoir autorisé le rappel des parlements. Son grand tort, de trop aduler Marie-Antoinette, à laquelle il cédait presque toujours. Georges Bordeneuve est assez sévère pour celle dont sa mère elle-même déplorait le caractère léger. Il dit qu'au lieu de sous-traiter son ouvrage « Le roi martyr », il aurait pu l'intituler « Louis XVI ou les occasions manquées ». En maintes conjonctures, comme Varenne, le souverain fut en effet trahi par la chance.
La cause immédiate du procès de Louis XVI, c'est en réalité sa fuite de Paris jusqu'à Varennes. Il allait rejoindre en fait l'armée du duc de Bouillé, qui était une armée contre-révolutionnaire. Et
qui était stationnée où ?
Qui était stationnée dans l'est de la France, un petit peu plus à l'est de Varennes. Et il s'en est fallu de peu d'ailleurs que cette évasion ne réussisse. S'il s'était pas arrêté malencontreusement à Varennes, ça aurait pu marcher.
Puis même cet arrêt, enfin, c'est une stupidité sans fin. On a raconté, peut-être est-ce la vérité, qu'il avait donné à un brave homme une pièce d'or pour le remercier d'un service qu'il lui avait rendu, et que l'homme avait reconnu le roi sur la pièce.
Sur la pièce, oui. C'est ce qu'on a dit. Est-ce que c'est vrai ? Ça n'est pas sûr.
Ça serait vraiment le summum de la malchance.
Il a été reconnu par un maître de poste à Varennes et raccompagné à Paris. Alors, bien que certains aient voulu faire passer cette fuite pour un enlèvement, ce qui n'était évidemment pas le cas, ça a été considéré par le peuple comme une trahison, et ce qui a entraîné donc son inculpation devant un tribunal révolutionnaire.
Et qui y avait dans cette berline ? Il y avait évidemment la reine, j'imagine, ses deux enfants. Et est-ce qu'il y avait Madame Élisabeth, sa sœur ? Je ne sais pas.
Je ne suis pas certain.
Parce qu'elle ne voulait pas le quitter elle a payé ça de sa vie aussi.
Ouais. En tout cas, la fuite était bien préparée, mais était très très mal exécutée. Ils sont allés beaucoup trop lentement. Ils s'arrêtaient un petit peu partout.
Et ne serait-ce que le fait de changer les chevaux aux arrêts dans les relais de poste, ça devait être extrêmement dangereux aussi, bien sûr.
Tout à fait.
Et c'était Axel de Fersen qui avait organisé.
C'était Axel de Fersen qui avait tout organisé. Enfin, l'idée venait de la famille royale, mais l'organisateur en chef était Axel de Fersen.
Dévoué jusqu'au bout.
Jusqu'au bout. Il avait absolument tout organisé. C'était très bien organisé, d'ailleurs. Et malheureusement, ça a échoué. Ça a échoué par la faute des hésitations et de l'impréparation de la famille royale.
Et particulièrement de Louis XVI.
Et particulièrement de Louis XVI. Mais Louis XVI, là comme ailleurs, il avait fait montre de son esprit habituel, c'est-à-dire de son indécision, de sa difficulté à prendre des décisions.
Et en fait, cette indécision, d'après ce que nous avons déjà vu tous les deux, c'est la cause majeure de l'échec de son règne.
Louis XVI avait beaucoup de qualités. Il avait été élevé dans l'esprit du siècle des Lumières. Il voulait très sincèrement le bien de son peuple, enfin de ses peuples. Mais il avait une fâcheuse disposition de caractère, qui était le fait de ne pas arriver à imposer sa volonté. Thank you.
Il croyait trop à la fatalité, à laquelle il finit par s'abandonner avec la résignation d'un grand chrétien. Hélas ! Bref, avec des talents qui eussent fait de lui un remarquable particulier, il n'était pas conformé pour le métier de roi. Autre conclusion qui s'impose, il faut démystifier la révolution qui apparaît d'autant plus inexplicable que quand elle éclata, les Français étaient heureux. La présentation du livre par l'éditeur précisait parfaitement le sujet « La chute de la monarchie ». Par Charles Clerc. Intelligent et voulant le bien avec passion, Louis XVI aurait pu être un roi glorieux. Il ne sut être qu'un roi martyr. C'est un jeune prince de 20 ans qui succède à son grand-père sur le trône de France et de Navarre le 10 mai 1774. Le nouveau roi, Louis XVI, semblerait promis au plus brillant avenir si, outre une gaucherie et une balourdise que le temps devait se charger d'effacer, il n'avait pris l'habitude de se laisser diriger par sa jolie femme, la frivole Marie-Antoinette. Drôle de couple, en effet, que ce prince timoré qui préfère s'épuiser à la chasse que d'honorer sa femme, et sa coquette princesse qui, insolente et autoritaire, vole de bals en plaisir. Leur nuit de noces s'est d'ailleurs résumée à « Avez-vous bien dormi ?» naïvement formulé par le prince, encore dauphin, lorsqu'il a découvert à son réveil dans son lit une sirène de 15 ans. En fait, Louis XVI attendra 7 ans avant de se résigner à subir la nécessaire et bénigne opération chirurgicale qui lui permettra d'accomplir enfin ses devoirs conjugaux. Comment s'étonner alors que son épouse, désirée par tous, sauf par son maître, ait choisi de s'étourdir dans un tourbillon de fêtes, avançant ainsi l'heure de la Révolution. Pourtant, en historien lucide, Georges Bordeneuve nous démontre combien Louis XVI avait tout pour réussir. Dès son avènement, il s'attelle avec bravoure à sa nouvelle tâche, il s'enferme dans son cabinet, plonge dans ses dossiers avec conscience, sinon passion. La reine, elle, intrigue, fait placer ses amis au poste clé et dépense sans compter. Jusqu'au jour où, innocente victime de la brumeuse affaire du collier, elle réalise brutalement l'ampleur de son impopularité. Mais il est alors trop tard. La monarchie est déjà en sursis. Conscient de la gravité de la situation, Louis XVI sait pourtant s'entourer d'hommes compétents pour endiguer l'hémorragie du trésor. Mais trop faible, il ne résiste pas ensuite à la coterie de sa femme, qui voit des gêneurs. D'abord Turgot, homme cassant et inflexible, son culte de la vérité lui attire aussitôt des ennemis puissants. Il est remplacé par Necker. Malgré des manières plus souples, le banquier suisse est remercié à son tour. Suit alors une valse de contrôleurs généraux qui se révèlent impuissants à relever une France accablée par la famine et les soucis financiers. Lafayette, expédié au secours des Américains, coûte cher. L'année 1789 arrive. Les États généraux sonnent le glas de la monarchie absolue. Louis XVI et Marie-Antoinette ont mûri entre-temps. Mais leurs rides, trop tard formées, ne peuvent plus les sauver de l'engrenage. La Bastille tombe. La Convention abolit la royauté et proclame la République. Tout s'accélère. Le roi, jugé, est condamné à mort pour conspiration contre la liberté de la nation et attentat contre la sûreté générale de l'État. Le 21 janvier 1793, un cri s'élève de l'échafaud. « Je meurs innocent !» Quelques secondes après, à 10h10, siffle le couperet de la guillotine. Grâce à sa plume précise, Georges Bordeneuve déroule sous nos yeux le tragique destin de cette victime de la cruauté de l'histoire. Multipliant les notations psychologiques, comme dans un livre de suspense, il nous fait assister au resserrement d'un étau autour d'un innocent. Marie-France Guimard-Roche vous retrouvera à Versailles pour une nouvelle émission de Bienvenue chez le Roi, consacrée à Louis XVI. Merci à Alain Botvinnik de sa participation dans ces émissions consacrées à Louis XVI. Nous le retrouverons bien sûr dans une nouvelle émission. Enregistrée, réalisée et mise en musique par Roland Richard dans les studios du Rocas de Radio Grand Ciel. Au revoir.